Il est 19h22.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
Vous savez évidemment ce qu'un marronnier en journalisme, le sujet qui revient comme les saisons tous les ans à la même époque. Et au moment de Noël, le marronnier jusqu'à très récemment, c'était mes cadeaux les plus sympas, les idées pour vos enfants, les recettes de foie gras des grands chefs, etc. Et rien qu'en lisant, on pouvait sentir monter notre bilan carbone. Aujourd'hui, les marronniers ont changé. Regardez la presse. Faire soi-même ses cadeaux de Noël. La seconde main n'est plus un tabou. Noël responsable aux frais des jouets en bois. Partager les restes. Ça n'est pas une mode, c'est un fait. Vous êtes nombreux à réfléchir à des modes de consommation alternatifs et donc des réveillons plus en accord avec les préoccupations environnementales qui n'étaient pas les nôtres il y a peu. On parle de tout. On parle bien sûr de cadeaux. C'est la dépense la plus importante de Noël. Les made in China, les trucs en plastique, les répliques miniatures de nos travers de consommateurs compulsifs. Mais on parle aussi du sapin, de son illumination. On parle du foie gras, on parle de la dinde élevée ou des homards pêchés ou bref, quelque chose change qui, soit dit en passant, est aussi un marché si l'on n'y prend pas garde. Pour autant, parce que j'entends vos remarques sur les bobos et kélos qui viennent réveillonner à vélo, pour autant, soyons honnêtes, résister à la consommation, c'est pas si simple. Les injonctions sont partout. La moyenne de consommation à Noël est toujours de 549 euros, c'est une moyenne. Le Black Friday, si décrié, a très bien marché. C'est moins simple que ça en a l'air parfois d'arriver avec un jouet en bois quand votre garçon ou votre fille avait le doigt pointé sur une voiture en plastique. Comment recycler nos réveillons consuméristes en réveillons responsables ? Comment consommer plus écolo, y compris dans ces périodes-là ? Soyez les bienvenus au téléphone sonne.
01 45 24 7000.
Et Barbara, c'est vous qui commencez. Bonsoir Barbara, soyez la bienvenue.
Bonsoir. C'est une grosse pression de commencer. j'ai appelé tout à l'heure. Je vous ai écouté beaucoup dans la journée. Et du coup, j'ai eu envie d'appeler tout à l'heure parce que vous disiez la moyenne, ce que vous venez de répéter, de 500 et quelques
549,
euros.
549, c'est beaucoup, hein, ouais.
C'est impressionnant parce que je pense qu'on n'a jamais dépensé ça chez nous par personne. Mais bon, après, je pense que c'est une moyenne. Je disais que depuis de nombreuses années, enfin, nos filles ont plus de 20 ans et on allait toutes les années. Il y a une grande vente Emmaüs dans notre secteur, début décembre. Et en fait, ça fait des années. Toute petite, on pouvait acheter des Playmobil, des choses comme ça. Enfin, je nomme des marques, je suis désolée, mais des petits objets qu'on pouvait recycler. Il y avait quand même d'autres objets achetés parce qu'il y avait un ensemble de choses, mais on faisait attention. Et on faisait des emballages, mais on n'osait pas offrir à d'autres personnes. Mm-hmm. Mon mari a des petits-enfants. Pendant longtemps, on n'a pas osé faire recycler. Et en fait, à l'adolescence de nos filles, elles sont venues avec nous à la grande vente, elles aussi. Et elles achètent d'elles-mêmes les objets, elles achètent des choses et nous on continue. Et cette année, alors je suis passée à ce qu'elle, parce qu'elle me pousse, je suis passée aux papiers cadeaux qui ne sont plus des papiers cadeaux mais des sacs cadeaux que je suis en train de finir. Là, je suis dans ma machine à coudre pour finir les paquets. Et puis, ben, par ailleurs, je dirais que nombreuses fois, ben, elles ont eu plusieurs fois au fur et à mesure de leur adolescence de l'argent pour s'acheter des ordinateurs et on a acheté des ordinateurs d'occasion, profitant de sites. On consomme pas forcément neuf pour les cadeaux de Noël, en tout cas.
Et est-ce que vous avez le sentiment, Barbara, que, alors vous le dites, ça fait plusieurs années déjà que vous alliez dans cette fameuse vente dont vous nous avez parlé, mais est-ce que vous avez le sentiment que aujourd'hui c'est plus facile, plus presque banal en fait, en tout cas mieux accepté, y compris, comme vous le disiez, quand c'est parfois compliqué d'offrir un objet de seconde main en fait ?
Bah, je trouve que c'est, oui, je trouve ça un peu plus facile, on peut le dire un peu plus facilement. Des fois je le dis pas, des fois je le dis, mais par exemple pour des amis, facilement je vais j'offre des petits bijoux que j'ai trouvés dans cette vente. Et ça me permet de faire plus de cadeaux finalement à plus de personnes parce que je dépense moins, mais surtout ça va avoir une autre vie, quoi. Et bon, après c'est c'était ce qu'on voulait faire les Compagnons d'Emmaüs, mais il n'y a pas que les Compagnons d'Emmaüs. Il y a plein d'endroits où les gens font ça, quoi. Et pour les jouets, pour les enfants, on peut trouver des choses. J'ai entendu dernièrement sur votre antenne et à la télévision la même association nommée qui reconditionne des jouets. Mmh. Et moi, je suis à fond pour ça, quoi.
Merci. Donc,
Mais l'essentiel. Merci pour tout.
Non, merci à vous, Barbara. Je vais vous laisser à votre machine à coudre pour faire vos paquets cadeaux parce que l'heure tourne. Il est jamais que 19h26. Merci beaucoup pour votre témoignage, pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Philippe Poitier, là, bonsoir. Vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris Diderot. Vous êtes cofondateur de l'Observatoire Société et Consommation. Jérôme Partot, c'est là également. Bonsoir.
Bonsoir.
Sa politique France Nature Environnement. Merci à tous les deux de participer à ce téléphone sonne juste avant d'aller réveillonner. Moi, je trouve ça intéressant ce que nous raconte Barbara. Jérôme Partos, parce que alors elle le fait depuis longtemps, et puis il y a cette idée que quelque chose peut-être a basculé, en fait. Et venir désormais, d'ailleurs peut-être avec un objet de seconde main, et le dire, ça fait partie aussi du cadeau, désormais.
Oui, tout à fait. Alors d'abord un grand bravo à Barbara parce que c'est courageux. Aujourd'hui, ça l'est peut-être un petit peu moins, mais il y a quelques années, ça l'était certainement. C'est courageux, intelligent, visionnaire et ça va dans le bon sens. Vous parliez de consommation. On est des consommateurs par nature,
bien
donc
sûr.
Il ne s'agit pas de consommer moins ou plus. Il s'agit de consommer mieux et c'est tout à fait le sens du discours de Barbara. Donc on peut que l'encourager. Ce qui m'interpelle aussi dans son discours, c'est le fait qu'il y ait des initiatives qui viennent de ses enfants. Mmh. Et on voit quand on en parle que les jeunes sont beaucoup plus proactifs là-dedans que nous, en fait, mmh. Des populations un petit peu plus âgées.
Vous pouvez y aller, les
vieux. Il faut écouter les enfants. Ils sont très concernés. Alors, je sais pas si on peut appeler ça le phénomène Greta, mais en tout cas, on sent qu'il y a une demande du monde des jeunes vers le monde plus âgé pour changer vite, changer fort, changer en profondeur.
Philippe Moiti, j'aime bien quand Jérôme Partos dit que parfois c'est courageux, parce que oui, disons les choses, parfois c'est compliqué, et parfois c'est courageux. On parlait tout à l'heure en introduction des injonctions, elles sont partout, elles existent partout, et c'est pas forcément simple en effet d'arriver avec un jouet en bois quand un gamin espérait autre chose. Est-ce que vous aussi, depuis votre œil d'économiste et d'observateur de la société, vous avez le sentiment que ce tournant est en train d'être pris? Où on en est très loin, j'ai l'impression qu'on est au milieu du guet, moi, en lisant à la fois les chiffres et en écoutant les gens qui nous écoutent.
Oui, enfin, je suis en train de rédiger une note que j'ai envie d'intituler 2019, l'année de la rupture. J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose cette année,
ouais.
Très clairement.
Cette année.
Oui,
donc c'est un effet Greta en fait. Au fond.
Pas seulement. Bon, il y a tout un enchaînement d'événements qui se sont produits. La démission de Nicolas Hulot, ces scientifiques qui nous ont alertés en nombre sur l'état de la planète. Ouais. Le ressenti qu'on a eu de la planète avec les canicules répétées, les inondations, enfin on commence à le sentir dans notre chair, quoi.
Ah, puis là, il fait 15 degrés, alors on confond pas climat et météo, on est d'accord, mais enfin ça participe aussi peut-être à ça.
Exactement, on est loin d'être dans l'imaginaire de Noël en ce moment. Donc voilà, on a l'impression dans le vocabulaire aussi la collapsologie, cette problématique de fin du monde, d'effondrement, c'est quelque chose qui est arrivé dans le débat public en très peu de temps et donc des enquêtes que nous pratiquons à Le Secours, nous avons des indicateurs de sensibilité de la population aux questions environnementales et ça s'est mis à progresser d'un seul coup, quoi. Donc clairement, il y a une prise de conscience d'abord de la gravité de la situation environnementale et un lien qui a été fait désormais entre nos modes de vie et nos modes de consommation et ces problèmes environnementaux. Et donc comme ces problèmes sont absolument gigantesques et qu'on a en plus le sentiment que nos politiques sont pas forcément toujours à la hauteur ou en mesure de pouvoir régler ces problèmes.
Je vois Jérôme Partos qui sourit.
Bah oui, soit on reste les bras ballants et on déprime, soit on se dit à notre petite échelle, on va faire notre part, comme le disait Pierre Rabhi, on va faire notre part, même si ça peut, j'entendais là tout à l'heure, se dispenser des papiers d'emballage et de faire ces tissus d'emballage, il y a quelque chose qui a une portée symbolique essentiellement ici. Mais au moins on a l'impression d'être actif et on commence à le voir dans les comportement de consommation, notamment, effectivement, les normes sociales évoluent. Mmh. Offrir un cadeau d'occasion, il y a encore 5 ans, c'était absolument inimaginable, sauf si c'était un objet rare, disons. Aujourd'hui, dans certains milieux, j'ai bien dit dans certains milieux, c'est parfaitement acceptable, c'est même peut-être valorisant.
Parce qu'il y a quand même ce paradoxe, on va retourner au standard dans un instant, mais on a tous fait des sujets au moment du Black Friday dans la presse, en expliquant cette surconsommation qui servait à rien, etc. Et puis on s'est rendu compte que les gens s'étaient rués dans les magasins, en fait, Jérôme Partos. Donc on est toujours pris dans cette espèce d'entre-deux. Ou alors, disons-le franchement, est-ce qu'il y a un entre-nous, c'est-à-dire un certain nombre de gens qui effectivement ont bougé leur comportement alors qu'ils correspondent à je ne sais quel pourcentage, je ne sais pas si c'est réellement chiffrable. Et puis il y a tous les autres et tous les gens qui sont aussi vous et moi et qu'on croise un peu partout.
On est toujours tenté dans l'immédiat. Il y a la difficulté d'aligner le comportement du court terme sur le long terme. Et c'est pour ça que je pense que ce que vous avez dit là, c'est très intéressant. On se rend compte, et peut-être que c'est la rupture de cette année, que les problématiques environnementales sont indissociables des problématiques sociétales. Et les problématiques sociétales, on les perçoit souvent sur plus le court terme que le long terme qu'est l'environnement. Et quand on associe les deux, on se rend bien compte qu'il y a une obligation de les aligner. Et peut-être qu'au niveau du quotidien, c'est pas encore passé, mais on sent que la réflexion commence à se poser.
Bonsoir Tiffina.
Bonjour.
Et comment ça va?
Bien.
Eh ben tant mieux. Bienvenue au téléphone sonne Tiffina. Raconte-nous un peu comment ça se passe chez toi.
Eh ben en fait, Pour cette année, on a essayé de faire un Noël écologique. On a acheté un araucaria, c'est un conifère d'intérieur qui ressemble à un sapin. Et on a emballé nos papiers cadeaux, enfin nos cadeaux, dans des tissus. Et pour les décorations, en fait, on a fait des bougies en orange. Et on a pris du hou dans la forêt et on a décoré la maison.
Eh ben, formidable. Mais alors, t'habites où, Tiffinia, pour avoir la forêt à proximité, pour pouvoir aller chercher du hou et autre chose?
Eh ben, j'habite à Betchat, au presbytère de Betchat, en Ariège.
D'accord. On entend tes parents derrière qu'on embrasse au passage. Est-ce que c'est toi, Tiffinia? Quel âge as-tu?
J'ai 10 ans.
T'as 10 ans. Est-ce que c'est toi qui as demandé et qui a dit, maintenant, on va changer, on va faire un Noël plus écolo ou pas?
Non.
Ah. C'est venu de qui, alors?
De maman, juste de maman, surtout de maman.
Et toi, tu t'es dit chiche ou sur le coup, tu t'es dit, alors attendez, ça va pas être possible parce que pour mes cadeaux, comment ça va se passer?
Moi, je suis plutôt contente parce que comme ça, on fait pas fondre les icebergs.
Et le sapin, il te plaît bien, même s'il ressemble qu'à moitié à un sapin ou pas?
Oui, il me plaît, il ressemble quand même un peu à un sapin.
Quand même un peu, et donc c'est l'essentiel. Merci beaucoup, Tiffinia. Passe un joyeux Noël avec toute ta famille en Ariège, avec le sapin et les oranges. Merci vraiment pour ton appel. Jérôme Partos, elle est mignonne, Tiffinia. Mais bien sûr que c'est comme ça que ça vient. Non, mais honnêtement, c'est comme ça que ça commence. C'est comme ça qu'on trouve normal d'avoir autre chose qu'un sapin quand on a après 10 ans, 12 ans, 14 ans, 15 ans, et qu'on ne réclame plus aussi des choses, en fait, qui peuvent être trop plastiques, trop papier, etc.
Oui, je pense que sur le fond, ça vient aussi du fait qu'on se rend compte que les traditions ont vocation à évoluer, à changer, que des traditions, ça se crée aussi, et qu'une tradition qui existe, c'est pas nécessairement une obligation. Et donc, un sapin de Noël, c'est bien, c'est sympa. Maintenant, ça représente quand même des milliers d'arbres qui sont détruits. Enfin, au niveau de l'économie de l'environnement, c'est pas top. Et là, ce que nous propose Tiffinia, c'est super mignon. Hein. Donc, oui, c'est bien, et allons-y.
Philippe Moati, comment on distingue, au fond, parce que j'ai l'impression que c'est ça notre grand dilemme, distingue nos besoins artificiels et nos besoins naturels. Chaque besoin naturel n'est pas forcément quelque chose dont on a besoin réellement, parce qu'on a le droit aussi d'avoir envie de choses, mais il y a quand même une grosse marge entre ce qui est purement artificiel, dont on n'a absolument pas besoin, qu'on nous a presque forcé à acheter pensant qu'on en avait besoin. Et ce qui est naturel, en fait. Est-ce que là aussi, cette ligne est doucement en train de bouger ou c'est un gros travail?
Il me semble que c'est un débat un peu stérile, si je peux me permettre. Excusez-moi d'être direct.
Mais je vous en prie.
Les besoins strictement nécessaires sont très, très, très limités.
Alors,
ce sont les besoins
oui.
nécessaires à la survie.
Oui, on est d'accord.
Tout le reste sont des besoins sociaux. Est-ce qu'on a très bien vécu pendant des millénaires sans smartphone? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut vivre sans smartphone?
La réponse est non. Soyons honnêtes avec les uns avec les autres.
Bien sûr que non. Par contre, là où je vais dans votre sens, c'est que... le capitalisme, c'est un système qui fonctionne en dynamique, qui a besoin de croissance. Mmh. Et donc, il peut pas s'accommoder d'une saturation des besoins. Donc, quand les besoins sont saturés, que, a priori, la demande des consommateurs devrait s'arrêter de progresser, c'est pas concevable, si vous voulez. Il faut que la fête continue, il faut que les ventes continuent de progresser. Et donc, le capitalisme, c'est une formidable machine à réactiver en permanence le désir. Et c'est aussi une manière de répondre à la remarque que vous formuliez tout à l'heure. C'est que, effectivement, on est tous maintenant atteints par la conscience de l'impact environnemental de notre consommation. Mais face à ça, l'artillerie que déploient les acteurs de l'offre, les marques et les enseignes pour nous inciter à continuer de consommer parce que c'est nécessaire pour qu'ils puissent développer leurs ventes, cette artillerie, elle est très, très, très nourrie et elle est de plus en plus sophistiquée. Avec des techniques marketing qui vont chercher au plus profond où sont vos désirs, où est le bouton de votre désir pour appuyer dessus et vous amener à consommer. Il faut bien comprendre d'ailleurs que notre économie repose en partie sur la consommation. L'INSEE vient de livrer son bilan de l'année 2019. L'année a été créatrice d'emplois, c'est parce que la consommation a tiré la croissance. Donc vous voyez qu'on est dans une logique un peu infernale, c'est que si on se mettait tous à déconsommer, à être beaucoup plus sobre, n'acheter que des produits d'occasion par exemple, Eh bien, dans le système actuel, ça se traduirait par une panne de croissance et un accroissement du chômage. Vous voyez la difficulté, le dilemme face auquel on se trouve.
Je vois Jérôme Partos qui est moyen d'accord avec vous. Je vous ai vu faire un petit peu la moue.
Oui, on va pas faire un débat d'économie, mais non. On peut aussi tirer la croissance par l'exportation. Enfin, il y a d'autres...
Pour ça, il faut gagner en compétitivité. Pour l'instant, le commerce extérieur nous plombe.
Oui, on est bien d'accord. Voilà, c'était...
Mais je suis d'accord avec vous, on va pas faire maintenant un débat sur l'économie, mais ce que ça dit et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas aussi simple que ça en a l'air quand même de changer. Si demain nous changions tous intégralement nos vies, nos habitudes et notre consommation, ou est-ce que selon vous ça l'est en fait aussi simple?
Non, c'est pas simple. C'est pour ça que ce qu'on appelle la transition écologique, c'est un gros problème très compliqué parce qu'on perçoit l'urgence et en même temps. On perçoit aussi la difficulté à répondre à l'urgence sans casser le système. Donc c'est pas du tout évident. Maintenant, on se rend compte aussi que des fois, il faut prendre un petit peu des risques pour changer plus vite, et que si on reste dans notre système actuel, on va rendre cette transition de plus en plus difficile parce qu'il faudra la faire de plus en plus vite et de plus en plus brutalement.
Donc, et ça deviendra des sacrifices qui, pour l'instant, n'est pas encore du domaine du sacrifice.
Il y a déjà un peu de sacrifice, mais plus on recule, plus le sacrifice sera difficile, plus il y aura des tensions. Et là encore, on va retomber sur des problèmes sociétaux et des inégalités qui vont se creuser violemment. Et c'est ça le souci.
Écoutez tous les deux ce que nous dit Josiane sur franceinter.fr. Elle nous dit « J'ai 3 enfants et 6 petits-enfants. Alors j'ai acheté au moins 12 cadeaux. Effectivement, ça fait beaucoup d'emballage, dit-elle. Je n'achète jamais de foie gras ni de langoustes, mais j'ai un immense plaisir à offrir des cadeaux de Noël. Dois-je me sentir coupable ?» nous dit-elle. Faut-il, Jérôme Partos, que Josiane se sente coupable?
Surtout pas. Non, Noël, c'est quand même... C'est quand même une fête d'abord et avant tout. C'est un moment où on se retrouve ensemble. C'est un moment de chaleur dans la famille, avec les amis, avec les proches. Donc surtout pas se sentir coupable. Peut-être réfléchir un petit peu. L'histoire des emballages de cadeaux, bon, ça a été traité, retraité. On sait que maintenant, les gens acceptent assez bien d'avoir des cadeaux pas emballés ou emballés dans des vieux journaux. On peut faire des concours du plus bel emballage. On peut faire des tissus, des systèmes Fourouski ou autres, comme le disait Barbara tout à l'heure. Donc on peut remplacer les emballages de jolis papiers de Noël de façon utile, sympathique. Donc surtout pas se sentir coupable. Ce qui est vraiment important, c'est déjà de se poser la question. Je pense que c'est le plus important. Et puis de passer un bon moment en famille. Il y a les cadeaux, il y a le repas, il y a l'ambiance.
Quand on se sent coupable, ça veut dire qu'on commence à penser. Cela dit, on se dit, est-ce que je pourrais pas faire différemment? Au fond, c'est un peu ça que nous dit Josiane Philippe Moati, peut-être. Quand on commence à se poser la question, c'est que la réflexion est en train de grouiller à l'intérieur de notre cerveau.
Je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Cette prise de conscience, c'est une première étape. Une fois qu'on a pris conscience, après, on adopte une démarche plus réflexive, comme on dit. C'est-à-dire que des gestes qu'on faisait de manière routinière, on s'interroge sur leur portée.
Dans le même ordre d'idée, pardon, on a Victor qui dit « Noël est un moment de communication, on se retrouve en famille, ça arrive rarement, on a donc envie de se faire plaisir, c'est aussi le moment de faire une parenthèse par rapport au climat ambiant, sans mauvais jeu de mots, quitte à faire quelques écarts. »
Oui, moi je crois qu'il faut vraiment éviter l'écologie punitive, quoi. Justement, il commence à y avoir. Nous avons fait cette année une étude sur les utopies. À quelles utopies les Français étaient-ils sensibles? Et une des grandes surprises de cette étude, c'est que parmi les 3 grandes utopies que nous avons testées, que je ne vais pas détailler ici, c'est l'utopie écologique qui l'a emporté et haut la main. Et pas seulement parce que par peur des conséquences du réchauffement climatique, mais par adhésion au mode de vie qu'on avait associé à cette utopie dans notre description. Qu'on avait fait dans l'enquête. Donc les gens ont envie de quelque chose de positif. Alors c'est quoi qui les attire? Faire soi-même, faire des choses, recentrer la vie sur le local, sur la proximité, avoir plus de liens sociaux, etc. Donc il peut y avoir une image très positive de tout ça. C'est pour ça que je suis un tout petit peu chagrin, disons, qu'on ternisse le côté festif des fêtes de Noël, peut-être en culpabilisant les auditeurs sur les agapes qu'ils s'apprêtent à accomplir et les cadeaux qu'ils s'apprêtent à s'offrir.
Allez-y, au niveau des agapes, Mélanie, tiens, puisqu'on parlait de gens qui font des... Pour le coup, là, on est dans... J'allais dire l'excès inverse, j'en sais rien. Bonsoir, Mélanie.
Bonsoir.
On vous écoute, allez-y.
Où commencer, du coup, il y a pas mal de choses qui ont déjà été dites. Moi, effectivement, j'étais partie pour expliquer à ma famille de ne pas m'offrir de cadeaux. Justement par choix écologique. Par ailleurs, avec mon conjoint, on a fait de la déco chez nous entièrement de récup. Du coup, beaucoup de données à droite à gauche. On est parti sur quelque chose où on voulait rien de neuf. En dehors de Noël, même au quotidien en fait. Et par ailleurs, là pour le soir de Noël, c'était au niveau alimentation. Nous, de toute manière, on partait sur le principe qu'avec notre famille, on n'allait pas consommer de foie gras. Et en plus de ça, on partait avec notre plat végétalien pour limiter aussi notre impact. Après, effectivement, bah, même si j'évoque beaucoup ce côté-là, ma famille, ils sont pas forcément du même avis. Donc, je leur explique effectivement que je viendrai pas forcément avec le même type de cadeau qu'eux, etc. Que je pars sur des cadeaux plus profiter du moment présent, du coup, de leur proposer quelque chose, partager un spectacle ou une pièce de théâtre, voilà, plus offrir quelque chose qui se partage avec une personne plutôt que quelque chose qui serait... on parlait de besoin justement tout à l'heure, après c'est difficile de... voilà, de partir sur ce qui est utile ou pas utile, voilà, parce que le besoin aujourd'hui est difficile de dire la définition du vraiment besoin, parce qu'il y a plein de choses qui seraient pas vraiment utiles, mais vraiment parce que bon, c'est vrai que c'est pas, ça paraît un peu futile pour moi, surtout au moment où on sait que le lendemain de Noël, il y a beaucoup de choses qui se retrouvent sur le bon coin. Je pense qu'encore aujourd'hui, plusieurs jours après, beaucoup de cadeaux vont repartir très vite après être après avoir été ouverts, en fait.
Donc ça fera de très beaux cadeaux de seconde main, vous me direz. Voilà, au bout du compte, aussi. Donc finalement, la boucle est bouclée.
C'est un peu ça, oui. Mais voilà, du coup, c'est pour ça que je partais vraiment sur les cadeaux type événements, qui, je pense, sont une bonne alternative.
Les bien dématérialisés, la grande mode des bien dématérialisés. Et sinon, Mélanie, très sincèrement, est-ce que du coup, dans votre famille, on vous traite de rabat-joie, ou est-ce que vous avez fait des émules?
Non, aujourd'hui, il n'y a plus tellement de remarques, en fait. ça a commencé au début, quand même. Toujours sur qu'est-ce que tu veux à Noël. En fait, c'était plus par rapport à moi. Eux, en fait, ils faisaient pas tellement de remarques. Ils comprenaient la démarche. Mais je sais qu'il y avait quand même beaucoup de personnes de ma famille qui... ont toujours cette envie d'offrir quelque chose de matériel, en fait, qu'on puisse ouvrir notre paquet le soir de Noël, qu'on puisse, il n'y a pas vraiment de petits mots comme ça sur le comportement qui aurait changé, non, c'était après voilà, s'adapter au niveau de l'alimentation, s'adapter à du coup quoi offrir quand même, parce que c'est vrai qu'il y avait, comme je disais, cette envie d'offrir quelque chose, en fait. Parce que pour beaucoup de personnes, c'est pas évident d'offrir quelque chose qui est pas matériel.
Bah absolument, et c'est pour ça que parfois, effectivement, c'est compliqué. Merci beaucoup pour votre témoignage, Mélanie. Le cadeau dématérialisé, le bien dématérialisé, de plus en plus, ça aussi, c'est ce qu'on voit ici, là, Philippe.
Oui, on appelle ça aussi offrir de l'expérience, offrir un moment fort, un moment mémorable. Alors, faudra quand même faire un jour le bilan carbone de ces moments.
Parce qu'il faut y aller au théâtre et on prend la voiture.
Voilà, donc c'est peut-être pas aussi évident, mais si on se situe sur un autre registre, je pense qu'effectivement, réfléchir en termes d'expérience, qu'est-ce qu'on apporte à travers le cadeau, qu'il soit d'ailleurs tangible ou intangible, matériel ou immatériel, qu'est-ce qu'on apporte? Est-ce que c'est un petit plaisir éphémère, celui qu'on a quand on déballe et qu'on découvre le contenu du carton, ou c'est quelque chose qui peut carrément changer la vie? Imaginez offrir une place d'opéra à quelqu'un qui va se découvrir une passion pour l'opéra, ça peut être extraordinaire. Offrir un instrument de musique, peut-être le début d'une passion pour la musique. Offrir du matériel de peinture qui a peut-être révélé une passion pour la peinture. Offrir des leçons de ceci ou de cela. Voilà des cadeaux qui peuvent être matériels ou immatériels, mais qui peuvent transformer l'individu. Donc c'est là-dessus qu'il faut se gratter la tête. Comment on peut faire en sorte que cette consommation qui s'opère à ces moments-là soit une bonne consommation?
Jérôme Partout, c'est une question de... Vous le disiez un peu tout à l'heure, c'est pas seulement effectivement ce moment particulier des fêtes, mais c'est changer beaucoup de paradigmes, en fait, et imaginer que toutes les traditions qui sont d'avoir un paquet, qui sont de manger telle sorte de choses, etc., tout ça n'existe que parce que on l'entretient, et après tout, si on ne le fait pas, ça fait pas un mauvais réveillon pour autant. Parce que j'entendais la remarque de Mélanie sur le foie gras, il y en a quelques-unes des questions de ce genre.
Oui, j'imagine. Bon, déjà, il faut que ce soit festif, convivial, ça veut dire qu'il y a de la tolérance. Donc, si on veut emballer son cadeau parce qu'on est habitué de le faire et on pense que c'est bien, on le fait. Si on veut ne pas l'emballer, on l'emballe pas. Et ensuite, on en parle. Une réunion comme le repas de Noël sans tolérance, c'est inenvisageable. Donc, forcément, les gens ensuite peuvent discuter. Et puis, surtout, un cadeau, c'est un message. On donne un cadeau, on envoie un message. Si on est sensible à une problématique et on pense que ça peut intéresser la personne à qui on donne le cadeau, photo, ben on va l'ajuster. Moi, j'ai offert des bouquins pour les enfants pour leur apprendre à dessiner les oiseaux. Parce que ça, je pense que c'est intéressant et je pense que ça va leur plaire. Donc c'est vraiment le côté message du cadeau de Noël dans une ambiance de tolérance qui doit rester fort, je crois.
Il y a beaucoup de questions qui tournent autour de la consommation de foie gras, changer ce type de consommation. Je sais qu'on a un producteur de foie gras qui est pas très loin, qu'on va entendre dans un instant. Je voudrais d'abord qu'on entende Nathalie, le temps que notre ami producteur arrive. Bonsoir Nathalie.
Oui, bonsoir.
Allez-y.
Écoutez, je vous partage l'expérience de notre famille où nous sommes assez nombreux et nous prenons l'habitude de tirer au sort une personne. On fait un petit sac avec tous les prénoms et puis un enfant tire au sort qui va offrir à qui. Du coup, on choisit un cadeau qui...
Et le dernier, vous le perdez dans la forêt, c'est ça l'idée?
Voilà. Et puis, ce que le monsieur a dit tout à l'heure, c'est-à-dire offrir des stages aux... offrir du matériel de créativité qui offre le partage. Après, je me rends compte moi, je suis habituée, j'ai une mère qui a toujours fait des choses très belles avec du papier, avec des décorations. On a des habitudes qui sont pas simples à changer. Hein.
Mais c'est vous, visiblement, vous aviez pris de bonnes habitudes au départ, donc vous les avez gardées. C'est ce que je comprends en vous écoutant, Nathalie.
En fait, surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on tire au sort un cadeau unique à faire à une personne qui sera là dans la soirée.
Et est-ce que ça tombe juste ou pas du tout parfois?
Eh ben ça pousse des rencontres. Hein. ça pousse à mener des enquêtes auprès des conjoints, auprès des parents, auprès de s'intéresser à la personne.
Merci
en
beaucoup.
En tout cas, c'est convivial et c'est écolo, je crois.
Merci beaucoup, Nathalie, pour votre témoignage, Philippe Moati.
Oui, c'est juste pour préciser que le tirage au sort se fait en amont la distribution des cadeaux. Comme ça, on peut penser. Et puis, on peut, comme on fait moins de cadeaux, on peut monter en gamme et offrir des cadeaux de plus grande valeur et de meilleure qualité.
Voilà, je vous avais promis Pierre, le producteur de foie gras, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Il n'y a pas de raison qu'il ne se défende pas non plus. Bonsoir à vous. Soyez le bienvenu, Pierre.
Oui, bonsoir.
Allez-y.
Oui, donc moi je suis un petit producteur de foie gras, je fais une démarche aujourd'hui de transition vers l'alimentation des canards en agriculture biologique. Donc on peut aussi manger du foie gras en ayant une démarche écologique et bon, dans tout ce qu'on consomme. Hein, réfléchir aujourd'hui entre le foie gras industriel qui est nourri avec du soja OGM, et celui que moi que je fais avec en m'approvisionnant auprès de producteurs locaux, et ben on n'est pas du tout dans la même démarche quoi. Donc on peut consommer, mais consommer éco-responsable.
Mais est-ce que ça existe, Pierre, pardon de vous poser la question comme ça, est-ce que ça existe du foie gras sans gavage? Parce que le problème de base, c'est celui du gavage.
Alors,
en fait.
Moi, je vais réagir parce que j'ai entendu parler des Espagnols qui faisaient du foie gras d'oie sans gavage. Et le gars, il explique que ce sont les oies sauvages qui s'arrêtent de migration et qui viennent, qui sont appelées par des oies qui sont sur place, qui leur disent qu'il y a à manger, qui se nourrissent naturellement, et puis qui font des foies gras qui sont beaucoup plus petits que les foies qu'on fait nous. Mais moi, ça me pose quand même une question, parce que moi, je gaffe pas des canards sauvages, je gaffe pas des oies sauvages. Il me semble que les espèces sauvages, elles sont protégées. Moi, j'élève des canards pour faire du foie gras. C'est, on peut le discuter. Hein. Moi, je gave mes canards un par un. Ils sont dans des parcs où ils ont la possibilité de se bouger. Je réfléchis à cette question, hein, d'essayer d'expérimenter, de voir ce que ça donnerait si je laissais les canards se nourrir tout seuls. Disons que il y a une démarche qui est quand même une démarche où l'animal n'est pas un objet comme dans une usine. Il y a quand même une attention individuelle à l'animal.
Mais est-ce que vous sentez, Pierre, que c'est plus compliqué pour vous, en fait? Il y a une époque où on questionnait pas du tout ces pratiques-là, en fait. On n'en parlait même pas. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est plus difficile aujourd'hui? Donc, il faut effectivement que vous expliquiez, que vous racontiez, peut-être même que vous montriez et que même vous inventiez autre chose, ce que vous semblez dire aussi. Est-ce que vous avez vraiment senti que quelque chose était en train de bouger aujourd'hui, que c'était moins simple, y compris pour des producteurs comme vous?
Oui, après, moi je suis dans un système qui est paysan, qui est une petite taille, les gens ils viennent visiter ma ferme, ils voient comment je fais, ils voient comment je gave les canards avec attention. Et depuis longtemps, on dénonce le gavage industriel. Où, moi, je fais 500 canards cette année sur la saison, mmh. alors qu'il y a des gens qui gavent 1000 canards par lot, quoi, mmh. qui vont en faire 25 000 par an. On n'est pas du tout dans la même relation aux produits. Mmh. Je vous parlais de soja OGM. Moi, l'impact écologique de mon canard, il est absolument pas le même que celui de, d'un canard industriel. Mmh. Après, évidemment, il y a des gens qui font le choix de manger moins de viande. Moi aussi, hein, je mange de la soupe le soir. Je mange pas toujours de la viande parce qu'on peut s'en passer. Mais quand on en mange, bah, on aime bien manger de la bonne viande, de savoir d'où elle vient. Et bon, moi j'ai été arrêté pendant un an parce que j'ai fait un problème de capsulite à l'épaule. Mmh. Et bah, je peux vous dire que mes clients sur les marchés, parce que je fais les marchés sur la région parisienne, la Souquenne, bah, mes clients, ils m'attendaient, ils étaient très heureux de me retrouver parce qu'ils savent la qualité du produit. Mmh. Et puis ils savent aussi l'éthique qu'il y a derrière, quoi.
Merci beaucoup pour ce témoignage, Pierre, qui a été écouté avec beaucoup d'attention autour de la table. Jérôme Partos, qu'est-ce que vous en dites, vous? Peut-il y avoir un producteur de foie gras responsable au fond, comme Pierre le dit et l'explique?
Alors, si on met de côté, ce qui n'est pas évident, la question du bien-être animal, ouais. Moi j'ai toujours beaucoup de respect pour les gens qui mettent leur cœur à bien faire leur métier, ce qui est le cas de Pierre, et notamment pour tout ce qui est agroalimentaire, l'opposition de l'artisan qui vraiment essaye de bien faire, de respecter les traditions, là il y en a, par rapport à l'agro-industrie qui, elle, vise le chiffre, le volume. Mm-hmm. Et donc, dans ce sens-là, je comprends le combat de Pierre et j'ai du respect pour lui. L'histoire du bien-être animal, c'est peut-être pas ce qu'on va aborder aujourd'hui, mm-hmm. mais par contre, ce que je voudrais dire, c'est que pour ce qui est du repas de Noël, on n'est pas obligé d'avoir du foie gras. Il y a des gens qui envie d'en manger, pourquoi pas. Là encore, il faut que ça se fasse dans la tolérance, dans la compréhension.
Mais là aussi, c'est un peu la question que je posais à Pierre, même au-delà, effectivement, on ne va pas rentrer dans le débat du bien-être animal, ce qu'on a déjà fait, qu'on refera au téléphone sonne, mais quand bien même, cette histoire du gavage, elle commence à rentrer dans la conversation, est-ce que là aussi, on est dans une immense tradition française, là pour le coup, avec le foie gras, est-ce que là aussi, on est en train de réfléchir à ça, réellement, vous pensez, Jérôme Partos, ou est-ce qu'on n'y est pas du tout, nous?
Ah si, je pense que clairement, le bien-être animal, ça devient une problématique qu'on évoque de plus en plus souvent, pas uniquement pour le gavage des canards ou des oies, pour les animaux en général, dans les abattoirs, dans les élevages de dindes, partout. Donc c'est effectivement un sujet de civilisation, on pourrait dire, qui, nous on le perçoit, est en train de monter, clairement.
Philippe Moitié, est-ce qu'un jour on ne fera plus de foie gras?
Peut-être. Ce dont on parle là, c'est le changement culturel. Ouais. Et le changement culturel, c'est long en général, et ça commence toujours par une avant-garde qui prend de l'avance par rapport aux autres. Et il faut faire attention à ces moments-là, que l'avant-garde ne se coupe pas du reste de la population. Mmh. Selon nos études et selon les sujets, on évalue que cette avant-garde, elle représente entre 7 et 15% de la population. Voilà. Et elle a tendance à croître. Et elle a une audience, si j'en juge par la tonalité par exemple de nos débats aujourd'hui, des interventions des auditeurs, elle a une audience qui dépasse son poids statistique, en quelque sorte.
Exactement.
Donc elle tire le reste. Mmh. Mais attention que la distance ne se creuse pas excessivement. Par exemple qu'aujourd'hui, on ne crée pas l'anathème sur ceux qui mangent du foie gras, qui vont manger ce soir du foie gras. Parce que ça peut créer un refus, vous voyez, une résistance de ne pas vouloir se laisser embarquer dans quelque chose.
Il y en a chez moi, je suis coupable, tant qu'à faire, je le dis.
Voyez, vous vous sentez coupable, vous l'avouez.
Alors en fait, pas vraiment, c'est vraiment trop horrible. Je vais devoir rentrer, Jérôme Partos.
Oui, ce qu'il faut voir, c'est le foie gras ou quoi. Ouais. Et là, on rentre aussi dans une problématique qui prend de la vitesse, je pense, c'est les produits locaux et la qualité des produits agroalimentaires qu'on peut trouver en France. Et on sait qu'on peut remplacer, pour ceux qui le souhaitent, ensuite chacun son choix, le foie gras par énormément de produits locaux, surtout quand on a une famille qui est répartie sur tout le territoire. Chacun peut arriver avec sa spécialité locale, avec des produits qui sont frais, qui sont de bonne qualité, qui sont bio. Et évidemment, plus il y a de candidats au remplacement du foie gras, plus la question peut se poser.
Mais qu'est-ce que ça vaut, au fond? Parce que moi, j'ai toujours été étonnée par les gens qui remplacent... on parle d'un steak tout court, et puis on le remplace par un steak d'autre chose, mais qui n'a rien à voir avec un steak. On nous parle beaucoup de faux gras, par exemple, en ce moment. C'est quoi le faux gras? C'est quoi ce truc, en fait?
Ah non, ça, c'est les mauvaises copies. Non, je parlais de produits complètement différents, à base de légumes, à base de fruits, des salades, des choses comme ça, qui peuvent être très bons.
J'ai tout à fait compris ce que vous nous disiez, Jérôme Partos, mais j'ai l'impression qu'on est dans cette espèce d'entre-deux, nous, dans notre fameux changement culturel, où, au fond, pour l'instant, on veut la même chose, mais qui serait pas si pire pour l'environnement, pour le bien-être animal, etc. On est dans cette espèce d'entre-deux-là. C'est comme ça qu'on voit arriver des steaks de tout, et notamment du faux gras, Philippe Moiti.
Oui,
ben on est dans
une,
cette espèce d'entre...
c'est une logique de commerçant, j'ai envie de dire, d'essayer de trouver le chaînon manquant, pour pas y faire...
Mais ça se vend. Et ça se vend.
Ça se vend, alors, plus ou moins bien d'ailleurs. Ouais. Hein, il y a des réussites certaines et des échecs patents. Hein, mais effectivement, la transition est peut-être plus facile si on arrive à trouver quelque chose qui fait le lien entre entre l'hier et le demain. Mais c'est loin d'être évident.
Voilà, commencez à manger autre chose dans l'oie que son foie. Ce sera le démarrage. Il nous reste un peu de temps pour discuter avec Vincent. Bonsoir Vincent.
Oui, bonsoir.
Allez-y Vincent.
Ben écoutez, voilà, nous on a fait notre réunion de famille. Dimanche, on était 45, donc wow. De tous les coins de France qui se réunissaient, et notre mot d'ordre était de faire un cadeau à une seule personne, d'un montant de moins de 15 euros, et fait main, fait maison. Et voilà, ça a été extraordinaire, c'était des dessins d'enfants, c'était des fleurs à planter, c'était... Il n'y avait aucun plastique, aucun emballage, aucun... et donc, on tire ça...
En même temps, oui. Vincent, vous étiez 45.
On était 45, mais c'était extraordinaire, parce que on ne savait pas à l'avance, c'est un des neveux qui faisait le tirage au sort. Moi, j'ai eu ma belle-sœur, ma fille a eu son petit-neveu, et c'était que des choses fabriquées maison... ou cuisiner, mais adapté à chacune des personnes. Et donc, je pense qu'on n'est pas passé par aucun magasin ou on était vraiment dans de l'échange de chacun par rapport à chacun en mélangeant les générations.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Vincent. On vous souhaite quand même un joyeux Noël, même si c'est fait. Donc, vraisemblablement, ça y est, vous avez digéré.
Non, mais il y a d'autres. Il y a d'autres fêtes. Là, c'était la réunion de famille qui venait de toute la France. Donc voilà. Mais
vous avez un petit accent. Est-ce qu'il y avait du foie gras?
Alors, il y avait du foie gras. Alors, il y avait du foie gras, mais qui était cuisiné, et c'est moi qui ai eu un pot, qui était cuisiné par le papa de ma petite nièce.
Et ça change tout. Du coup, quand il est fait avec amour, forcément, ça change tout.
Exactement, j'ai encore le pot, et on va le partager demain avec mes filles, puisqu'on fait le Noël avec mes filles demain. Voilà, on va le partager ensemble. Mais c'est maison, les pots verricots, là, vous voyez.
On voit bien, qui sont parfois difficiles à ouvrir. Il faut tirer très fort sur le petit bout de caoutchouc. Merci beaucoup, Vincent, merci vraiment pour votre témoignage. Moi, ce que je retiens, Jérôme Partos et Philippe Moiti, ce que je retiens de cette discussion, c'est que tout ça doit rester festif, en fait, que on avance chacun à son rythme, que tout le monde a plus ou moins changé quelque chose sans changer tout réellement, mais qu'il faut que tout ça reste non seulement festif, mais volontaire, en fait, Jérôme Partos.
Oui, tout à fait, mais ce qui vient d'être dit là, c'est, moi je trouve c'est très beau, en ce sens que le plus grand des cadeaux, le plus beau des cadeaux, c'est son temps, c'est l'amour qu'on a, l'attention qu'on porte à la personne à qui on donne, et c'est vraiment l'esprit de Noël, et je trouve ça vraiment formidable.
Philippe Moiti, vous avez l'esprit de Noël dans votre personne?
Non, je voudrais simplement dire que, évidemment, à l'échelle individuelle, il faut que nous changions nos comportements. Mais c'est qu'une partie du problème, l'autre partie, c'est les entreprises, c'est l'offre. Et c'est une réflexion sur les modèles économiques d'entreprise qu'il faut engager pour que la prospérité ne soit pas liée à la quantité vendue. Et ne pas faire porter la responsabilité uniquement sur les frêles épaules des consommateurs.
Voilà, et surtout pas, merci beaucoup, merci vraiment de votre participation à tous au téléphone. Je souhaite vraiment un joyeux Noël, faites plaisir, faites-vous plaisir, mélangez-vous, mais revenez demain quand même. Allez, il est 20h sur Inter.